NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est présentée avec la participation de Comic Con Paris, de Numéricable et de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juin 2011 et c'est l'épisode numéro 62. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. C'est l'épisode numéro 62, je suis Patrick Béja, oui j'allais oublier mon nom, c'est bien ça. Et je suis avec Mr. Jeff Clavier en direct de San Francisco où, me dis-tu, il ne fait pas beau.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, et non, pour une fois on a un temps assez pourri. D'habitude au mois de juin c'est le grand beau et chaud, et en fait il pleut et on se pèle. Quelque chose de bien.
D'accord. Mais écoute, ici il faisait beau hier, aujourd'hui il fait moins beau, donc en fait on est assez synchronisé, c'est bien.
Peut-être que tu as vu les images de la keynote où en fait à partir de, je crois, 5h du matin, il y avait déjà pas mal de gens qui faisaient la queue.
Oui, c'est vraisemblable.
Je peux te dire qu'ils se sont pelés.
Alors justement, on va, bon, c'est fini la météo, hein. On a fait notre petit quart d'heure commère. Bah, il fait beau, hein, ici. Non, il fait pas beau. Et on va passer à nos news avec, bien sûr, au premier rang d'entre elles, la keynote de la WWDC d'Apple. On va aussi vous parler de Windows 8, des systèmes de paiement Google, de l'ineptie du CSA français et de plein d'autres choses. Et on va commencer tout de suite donc avec la keynote de la WWDC d'Apple, qui est assez importante. Pour ceux qui ne savent pas, la WWDC, c'est la Worldwide Developer Conference. En français, en accent français dans le texte, qui est en fait l'occasion pour Apple de présenter ses nouveautés à tous ses développeurs. Et donc, il y avait énormément de nouveautés sur iOS, macOS Lyon, enfin iOS 5, macOS Lyon et iCloud, leur service de gestion du cloud. Alors, je vais en fait faire une petite explication des choses qu'on a entendues, des éléments principaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y avait beaucoup de petites choses. Mais les choses à retenir, et Jeff, en tant que super fanboy Apple, qui est, je crois, le titre que t'ont donné les auditeurs de l'émission, qui trouvent que tu es particulièrement peu objectif, chose dont je suis sûr que tu disputes
Je ne dispute pas, non.
Ah d'accord,
non, je ne discute rien.
Moi c'est clair.
Par contre, je suis suffisamment pas fanboy pour n'être absolument pas au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que j'étais en meeting depuis ce matin 8h, donc en fait, ce sera une surprise pour moi.
Bah, c'est pas que t'es pas fanboy, c'est que t'es un fanboy occupé, quoi. T'es un fanboy qui bosse. Donc contrairement à nous qui avons fait un live. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez voir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé avec le live, on a fait un live donc avec l'équipe No Watch. Il y avait Cédric, Jérôme et Lionel de l'ex Lionel Abshow et de Game in the Pocket. On a fait un petit live tous ensemble. C'était super sympa. Ça a duré presque 2h30. Et normalement, il devrait être disponible sur le site No Watch, si ce n'est pas déjà le cas, très bientôt. Il y a donc le live quelque part sur le site, sur le billet. Il est déjà disponible, c'est le replay du live de la keynote mis en ligne par Cédric, que je remercie au passage. C'est 2h presque et demie et c'était super sympa de suivre ça ensemble. On s'est marré comme des petits fous. Je vous recommande d'aller le voir si vous voulez avoir toutes les annonces dans les moindres détails. Vous pourrez voir ça directement là-bas. Et évidemment, la keynote sera très certainement disponible chez Apple en live, en direct. Enfin, non, pas en direct, mais dans son intégralité, vous pourrez la regarder dans des conditions optimales. Elle sera disponible, je pense, le temps que cette émission soit en ligne. C'est généralement quelques heures après, on va dire 8 à 10 heures après, qu'elle est disponible sur les sites Apple et en téléchargement comme les podcasts. Donc, la keynote Apple. On attendait beaucoup de choses sur les nouvelles versions des systèmes d'exploitation et sur ce fameux machin qui s'appelle iCloud. Et j'avoue que, sans être terriblement déçu, forcé de constater qu'il n'y a pas eu d'annonce absolument de choses qui a ravagé les attentes des technophiles. il y a eu, je vais aller par étapes, macOS, je vais pas passer trop de temps dessus parce que en gros, il y avait la plupart des informations qui étaient déjà disponibles puisque macOS est en test bêta depuis un moment. Les quelques trucs qui ont été annoncés, c'est par rapport au Mac App Store. C'est-à-dire que le Mac App Store va permettre la mise à jour de logiciels uniquement avec leurs modifications, parce qu'aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne dans tous les App Store, c'est que à chaque fois que vous voulez mettre un logiciel à jour, vous devez télécharger l'ensemble du logiciel. Là, il sera possible de mettre à jour en ne téléchargeant que la partie de mise à jour, ce qui est quand même un petit peu une évidence, mais qui n'était pas encore disponible. Et à vrai dire, il y a beaucoup de choses, comme souvent avec ces mises à jour incrémentales, oui, bon, c'est l'anglais, des trucs qui étaient déjà disponibles chez la concurrence d'une manière ou d'une autre, ou des choses qu'on attendait depuis longtemps et qui n'arrivent chez Apple qu'aujourd'hui, mais qui sont quand même bien implémentées. Alors, sur macOS, donc les mises à jour simplifiées, à vrai dire, des trucs pas incroyables, quoi. Des nouvelles gestures pour le contrôle au doigt avec le Magic Trackpad là, qui sont un petit peu plus pratiques. Ils ont reparlé un petit peu du App Launcher, je sais même plus comment il s'appelle, comment il s'appelle ce truc où Mission Control, où on a toutes les applications qui sont en cours je me perds complètement, c'est terrible. Voilà, un petit peu comme Dashboard et Spaces et comment s'appelle ce truc sous quand tu fais quand tu vois toutes tes applications en même temps sous Mac, quand tu fais quatre doigts vers le haut, vers le bas.
C'est pas le jean.
Chatroom, aidez-moi, chatroom. Bonjour à la chatroom. Exposé, merci Nicolas Nix. Bref, macOS, rien de foncièrement incroyable. iOS, des mises à jour donc plutôt sympas, mais rien de révolutionnaire. Des trucs avec une refonte entière du système de notification. Ça, c'est un truc qu'on attendait depuis longtemps. Les notifications ne vont plus tout bloquer et apparaître comme une mini-fenêtre à l'écran, mais apparaître en haut de votre écran sans interrompre votre partie si vous êtes en train de jouer ou votre programme.
Ça, c'est bien.
C'est quand même la base, mais c'est assez bien implémenté. Et vous pouvez interagir avec avec ces notifications directement sur l'écran, même quand l'écran est bloqué. Par exemple, si vous recevez un message, pas besoin de débloquer votre téléphone, vous faites un petit glisser sur le message et vous l'écoutez. Ce genre de choses-là. Évidemment, toutes les applications auront accès à ce système de notification qui devient presque un système de widget. Pas tout à fait. Pas vraiment un système de widget, mais les notifications sont assez riches. Donc, ça c'est sympa, c'est bien foutu. Toujours sur le Mac OS, il pousse vraiment cette idée de ne pas avoir besoin de sauvegarder vos données, mais à chaque fois que vous fermez un programme, toutes vos données sont sauvegardées automatiquement. À vrai dire, toutes vos données sont sauvegardées automatiquement en permanence. Donc, l'idée qu'il faut sauvegarder un programme pour le sauvegarder disparaît un peu et c'est simplement votre environnement de travail qui est toujours le même, un petit peu comme sur iOS. Donc, si vous êtes en train d'écrire un document dans Pages, par exemple, vous fermez Pages, quand vous le rouvrez, vous le retrouvez exactement comme il a été, comme il était au moment où vous l'avez fermé. Ça simplifie un petit peu les choses. On revient sur iOS. Quelques nouveautés intéressantes là encore. L'appareil photo, quand votre téléphone est bloqué, vous pouvez y accéder directement sans le débloquer. C'est le genre de truc un petit peu basique, mais c'est vrai que ça manquait. Moi, souvent, quand j'étais dans un endroit où je voulais prendre plein de photos, c'était un peu chiant de devoir débloquer toujours le téléphone juste pour prendre la photo, puis le rebloquer. C'est une utilisation assez courante. Il y a un nouveau programme qui s'appelle iMessages, qui est en fait une copie, une repompe totale de BlackBerry Messenger, qui est une grande force de BlackBerry que RIM pousse à fond. Ils avaient fait des campagnes de pub uniquement pour cette fonctionnalité. Et ils ont donc intégré un système équivalent sous iOS qui est en fait une sorte de MMS, même pas de SMS, mais de MMS qui passe par les données, qui risque de faire un petit peu faire la gueule aux opérateurs de téléphone mobile.
Tu vas payer ta facture.
Voilà, exactement. Sauf qu'en fait, les SMS et les MMS étaient déjà inclus dans les forfaits, donc bon, à la limite. Mais vous pouvez envoyer des messages, des photos, des vidéos, des contacts, et vous pouvez faire du group messaging, qui était en train de devenir très à la mode avec certaines applications comme GroupMe ou des choses comme ça. Un système
je
genre
te,
BBM,
je te,
ça
je,
peut...
Que nenni sur les MMS inclus, chez nous, tu les payes en plus. Hein, donc,
ah, c'est vrai.
Tu peux avoir des SMS inclus dans ton... En fait, moi, je crois que je paye $5 pour avoir genre 200 SMS, un truc comme ça, dans mon forfait, mais t'as pas de MMS bundled.
D'accord. Et Dead Art, sur la chatroom, nous dit que BlackBerry Messenger est payant. Donc, c'est un atout... pour iOS certainement. Et il faut savoir que BBM, BlackBerry Messenger, est vraiment, vraiment... Moi, j'ai l'impression, comme dit Amiens06, que c'est inclus dans les services de BlackBerry. Hein. Donc, je doute un peu que ça soit payant. Mais dans tous les cas, il y a plein d'applications, et j'en ai testé beaucoup, qui faisaient ce genre de choses. Ça vous permet d'envoyer des SMS, même en France, où normalement les SMS en France sont inclus, ça vous permet de communiquer avec des gens à l'étranger, par exemple. Et si vous recevez, si vous avez plusieurs iDevices, normalement vous allez recevoir vos infos, enfin vos e-messages sur tous les iDevices. Donc, là encore, c'est quelque chose de relativement sympathique. Quoi d'autre sur iOS ? Un système d'édition de photos. Alors, ça sera certainement un système relativement simple, hein, simpliste, voire simplement pour changer le contraste, l'exposition, peut-être cropper un peu, recadrer comme ça. Mais du coup, ça fait que vous n'avez plus besoin d'aller sur votre ordinateur pour faire ces modifications simples. Et c'est un petit peu une philosophie qu'ils ont suivie avec cette mise à jour de iOS 5, donc, qui est, ils ont essayé de voir les différents éléments pour lesquels on avait besoin de retourner sur les ordinateurs et de les inclure directement dans iOS pour encore plus étendre les utilisations d'iOS dans le sens que les choses qu'on fait le plus souvent avec un ordinateur, eh ben on pourra les faire avec iOS. On pense surtout à l'iPad qui pourrait un petit peu plus encore remplacer les ordinateurs, même s'il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire sur iPad ou en tout cas pas dans l'immédiat. D'autres choses sur iOS, vous savez quoi, ça me sort de l'esprit tellement il y a eu de petites choses qui étaient pas invraisemblables, mais qui faisaient des petits bonus en plus, qui les ramenaient en fait iOS au niveau de la concurrence en quelque sorte. La mise à jour d'application automatique, donc sans doute en tâche de fond, ça n'a pas été 100% confirmé, mais sans doute en tâche de fond, et surtout, chose très importante, sans fil. C'est-à-dire que votre iDevice se mettra à jour tout seul, quand il aura suffisamment de batterie certainement, mais il se mettra à jour tout seul, sans fil, sans avoir besoin de synchroniser avec votre câble, sans doute toujours avec iTunes, mais sans avoir besoin de le brancher. Et ça, c'est un truc qu'on attendait depuis... Enfin, j'imagine que tu dois pousser un ouf de soulagement, toi, Jeff.
Oui, ça c'est... ça fait long... Tu te demandes pourquoi ça a mis autant de temps, mais bon, je pense qu'effectivement, tu vois tous ces petits détails, c'est une remise à niveau, tout un tas de trucs qui auraient dû être développés depuis longtemps, et en gros, ils se remettent en gros au goût du jour. Le truc que j'ai noté, qui me semble être énorme, c'est l'intégration en direct du système d'identité Twitter directement dans l'OS, qui fait que ça va être extrêmement simple pour tous les développeurs d'applications de se baser sur Twitter comme système d'identité. Et je note aussi l'absence de Facebook, comme le dit la chatroom, ce qui est assez surprenant, parce qu'en fait le problème aujourd'hui, comme ce système d'identité n'est pas directement dans l'OS, ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux utiliser Facebook Connect, tu dois taper ton mot de passe, enfin ton email et ton mot de passe, ce qui est un peu chiant. Mm-hmm. Alors qu'une intégration directement dans l'OS, c'est tu le fais une fois et après c'est un clic pour te connecter. Et ça, c'est énorme.
Bah, effectivement, c'est d'autant plus surprenant. Merci beaucoup à tous ceux de la chatroom qui me rappellent les différentes choses qui ont été annoncées. L'intégration de Twitter va plus loin que simplement avoir le nom de votre contact dans votre liste de contacts, le nom Twitter. Mais il y a aussi, par exemple, le fait de pouvoir envoyer une photo sur Twitter directement depuis l'application photo. Donc, vous pouvez soit l'envoyer par email, soit l'envoyer n'importe où, soit l'envoyer directement sur Twitter. Donc, Twitter est intégré de manière assez profonde dans l'OS. Évidemment, Nicolas Nix nous dit c'est en Wi-Fi only, toutes ces choses-là, enfin, les mises à jour, effectivement, c'est Wi-Fi only, c'est évident, c'est uniquement en Wi-Fi, pas en 3G. Et donc, ils auraient pu intégrer Facebook, mais ils ont choisi de ne pas le faire, donc c'est peut-être une question de politique. Ils avaient dit d'ailleurs à propos de Ping, si vous vous en souvenez, que les conditions de Facebook étaient un petit peu trop gênantes pour les intégrer. Ils avaient dit, le terme de Steve Jobs avait été onéreuse. Ça coûte un peu trop cher. Enfin, il parlait de pas de d'argent, mais de conditions d'utilisation.
Mmh. Venant d'Apple, ça fait sourire.
C'est certain. Oui, effectivement.
Et en fait, on se rappelle aussi que pour une raison qui est quand même très étonnante, on n'a toujours pas d'application Facebook sur l'iPad. Alors
ça je suis pas. Tu sais, le site en lui-même sur iPad fonctionne bien, hein, donc je suis pas 100% convaincu que ça soit nécessaire. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent.
Ouais, je pense que objectivement, doit y avoir un petit différentiel entre Apple et Facebook. C'est-à-dire qu'il a passé pas mal d'eau sous les ponts depuis que Mark Zuckerberg et Steve Jobs ont pris un yaourt glacé chez Fresh, qui est un des endroits in de Palo Alto. Et je pense qu'il y a effectivement un petit kerfuffle, comme on dit.
Ouais. Autre chose, on parlait du navigateur. Il va y avoir enfin des onglets sur le navigateur. Ça, il était temps aussi. Plutôt que de repasser sur l'écran qui vous présente les différents onglets que vous avez là, vous avez des vrais onglets sur le navigateur. La navigation entre les applications ouvertes par des gestures, donc quatre doigts sur la droite, sur la gauche, ça passe d'une application à l'autre. Sans doute, comme le disait Lionel ou Cédric, je sais plus, pendant notre live, certaines applications qui utilisent plusieurs, quatre ou cinq doigts pourront désactiver la chose. Vous pouvez aussi faire avec les cinq doigts le mouvement de fermer sur l'écran pour revenir à votre home screen, à votre écran de départ. Donc une plus grande intégration des gestures dans iOS. Et une autre chose qui est importante, c'est que au-delà du fait de pouvoir tout synchroniser, comme on le disait, sans fil, c'est une volonté de rendre ces iDevices vraiment indépendant du PC, c'est-à-dire que par exemple, quand vous achetez votre appareil, vous n'avez plus à le connecter sur iTunes, sur votre PC pour l'activer, vous pouvez directement l'activer tout seul et vous n'avez plus jamais besoin de le connecter à iTunes. Vous pouvez directement, quand vous l'allumez, il vous dit « Welcome », vous rentrez vos informations Apple et voilà, c'est terminé, tout est directement mis en place. Sur votre appareil, enfin toutes vos données, toutes votre musique et vos photos, etc. Et là, on arrive à l'autre partie de l'annonce, qui est l'annonce de iCloud, qui vient remplacer MobileMe. Il y a certainement des choses que j'oublie hein, sur iOS et macOS, mais comme je le disais, c'est une série de petites annonces intéressantes et qui mettent les choses à niveau, mais qui sont pas révolutionnaires. iCloud, c'est un système dont le but est de comment dire ? C'est un petit peu difficile à expliquer parce que ça fait beaucoup de choses. D'une part, j'oubliais une autre chose dont on nous a parlé dans la chatroom, dont nous parlait Nicolas Nix, le gestionnaire des tâches géolocalisées, qui est en fait une to-do list, un gestionnaire des tâches, qui est également qui sait où vous vous trouvez. Donc par exemple, si vous avez fait une tâche qui vous dit bon ben j'ai besoin de acheter tel et tel et tel truc au magasin, et ben quand vous arrivez au magasin, il va vous faire une petite alerte tout seul parce qu'il sait que vous êtes au magasin et vous dire ah voilà ce que vous avez besoin d'acheter. Bon, c'est un exemple hyper simple, mais on peut imaginer d'autres choses dans ce style-là beaucoup plus intelligentes que ce à quoi je peux penser moi. Tu utilises une to-do list spécifique, toi, sur ton...
Oui, j'utilise Toodledoo. qui est un petit utilitaire qui te permet de synchroniser tes tâches dans Outlook, donc Exchange, avec ton iPhone. Mmh. Et ça marche très très bien pour moi. C'est un truc qui coûte rien, mais ouais, ça marche super. Parce que c'est le problème, en fait, c'est quand tu es comme moi dans les deux mondes, parce que malgré le fait que je sois un fanboy d'Apple, je me force à avoir un PC sous Windows 7, et en fait j'utilise Outlook à la fois sur Mac et sur PC, et mes tâches principales, enfin mon gestionnaire de tâches, c'est la to-do list d'Outlook.
D'accord. Alors, donc, je parlais d'iCloud tout à l'heure. Effectivement, c'est un système qui a deux éléments. D'une part, ça revoit entièrement MobileMe, qui, ils l'ont avoué, et Steve Jobs l'a dit sur scène, on s'est un petit peu planté avec le MobileMe, ça marchait pas très bien aujourd'hui, et enfin, ça marchait pas très bien au départ, et même à la fin, c'était moyen. Donc là, on a tout revu depuis le départ, on a tout refait entièrement. Donc tout ce qui est calendrier multiple, email et tout ce que faisait MobileMe, désormais, c'est disponible sous iCloud. Ok, ça c'est une partie. Mais l'autre aspect un petit peu plus intéressant, c'est que ils ont intégré le système iCloud à macOS et à iOS de manière à ce que tous les documents que vous utilisez soient synchronisés entre tous vos devices immédiatement, automatiquement et instantanément. C'est-à-dire que il y a une chose qu'on a compris en écoutant la keynote. Ce n'est pas un système de stockage. C'est-à-dire que vos données vont être stockées pendant 30 jours sur iCloud, et au-delà de 30 jours, elles ne seront plus vraiment sur iCloud, ce qui nous a fait nous poser plein de questions. Mais pendant ces 30 jours, si vous allumez ou si votre machine est allumée ou que vous la rallumez à un moment, elle va se synchroniser avec toutes les données que vous aurez créées sur n'importe lequel de vos appareils. Par exemple, vous êtes sur iPhone, vous prenez une photo, et ben cette photo va être transférée sur votre iPad, sur votre Mac et sur tous vos appareils qui sont enregistrés sous vos identifiants Apple. Pour l'exemple des photos, ça nous fait bien sûr penser à Photo Studio qui était vendu avec le Kin, une invention vraiment sympa, mais malheureusement qui est morte avec la fin du Kin de Microsoft. Mais c'est pas uniquement avec les photos, en fait. C'est pour tous vos documents. Si vous écrivez un document, encore une fois, je prends l'exemple de Page, le traitement de texte, eh ben vous êtes en train de l'écrire, ça sauve automatiquement tout le temps sur iCloud, et ça vous le répercute sur vos appareils comme votre iPhone, votre iPad, etc. Ou sur vos autres Mac, hein, par exemple. Donc, l'idée, ce que j'en comprends, gardons à l'esprit que la keynote s'est terminée il y a une heure, donc c'est peut-être difficile d'avoir une vision globale, mais ce que j'en comprends, c'est que votre espace de travail, vos documents, ne sont plus sur un appareil, mais liés à votre identifiant, et ils sont disponibles sur tous vos appareils automatiquement. Beaucoup de gens dans la chatroom disent que ça va tuer nos batteries, c'est très possible, mais voilà, c'est l'idée de ce truc-là. Alors on ne sait pas si ça va vraiment mettre à jour en permanence en tâche de fond, j'imagine que oui, sinon ça a peu d'intérêt, mais c'est une initiative intéressante parce que c'est une utilisation du cloud que tout le monde touchait un petit peu du doigt, on savait que ça devrait marcher plus ou moins comme ça. L'utilisation qu'en fait Apple est intéressante et relativement intelligente. Je pense que ça peut donner quelque chose. Faut voir l'usage, quoi. C'est difficile de juger complètement, mais faut voir l'usage. Jeff, une impression sur ce type d'utilisation du cloud?
Bah, je pense que moi, je suis un gros utilisateur de Dropbox, aussi bien personnellement que au niveau de la famille, que au niveau de Softec. Donc, on a aujourd'hui plusieurs gigas d'accès partagé entre les membres de mon équipe. Et je pense que cette notion de je sauvegarde de façon complètement transparente dans le cloud, chose que Dropbox a vraiment créé pour toi en termes d'expérience, c'est-à-dire que tu sauvegardes localement, c'est automagicalement. Automagically copié dans le cloud, mis à disposition. T'es sûr que le CSA sera d'accord? C'est mis à disposition sur les autres machines et c'est super rapide, tu te demandes comment ils font. C'est une expérience qui est maintenant habituelle pour nous et c'est assez logique que Apple offre ça en détail. Je pense qu'une réflexion que j'ai par rapport à cet ensemble d'annonces, c'est qu'il y a des tonnes de startups qui vont se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant qu'Apple est rentré sur leur turf, parce qu'il y a quand même 4 ou 5 ou peut-être une dizaine de boîtes qui se sont dit bah merde, d'un seul coup on a perdu notre marché quoi. Donc ça va être intéressant.
Alors ça remplace pas complètement Dropbox hein, parce que comme on le disait c'est seulement 30 jours, c'est sauvegardé pendant 30 jours, c'est pour synchroniser tous tes appareils, c'est pas pour avoir un espace de stockage dans le cloud hein, c'est un petit peu différent comme vision.
Oui, j'entends bien, c'était plus une réflexion globale sur l'ensemble des annonces et en fait ce que je voulais dire c'est ça semble avoir ça a du sens complet et je serais pas étonné que la prochaine évolution de ce service, c'est qu'ils offrent un service qui va te durer, enfin t'offrir un stockage de la durée plutôt que seulement 30 jours. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils font ça sur 30 jours?
En tout cas, c'est peut-être parce que comme tu le dis, il pourrait y avoir une extension du service. 30 jours, c'est un petit peu limité. On peut imaginer qu'une extension du service sera payante parce que ce service-là est gratuit, contrairement à MobileMe. Donc là, il peut y avoir un business model en quelque sorte. Pour faire payer les gens qui seront habitués à ce service. Et entre parenthèses, il y a comment il appelait AirDrop sur macOS qui vous permet de faire un truc pas vraiment comme Dropbox parce que c'est pas un stockage dans le cloud, mais vous pouvez envoyer facilement des fichiers d'une personne à l'autre. Et une différence avec Dropbox, c'est que vous devez accepter de recevoir le fichier pour le recevoir. Bon, je sais plus qui disait, je crois que c'est Minaret dans la chatroom qui disait, c'est un service, en fait, de synchronisation comme il en existait aujourd'hui, mais simplement sans fil au lieu qu'il soit avec fil. Et j'ajouterais, c'est en plus universel entre tous vos appareils parce qu'on commence à en avoir beaucoup. Et quand l'iPad 2 est arrivé avec, je le disais dans le live, quand l'iPad 2 est arrivé avec un truc comme iMovie, on s'est dit, oh là là, c'est un petit peu pénible parce que si je prends une photo avec mon iPhone et que je l'envoyais sur mon iPad 2 pour le faire avec iMovie ou une vidéo, c'est super chiant à transférer, quoi. Là, on n'a plus besoin de synchroniser entre deux appareils. Tout est synchronisé entre tous les appareils. Et Maurice Mendy demande si c'est les appareils Apple seulement. Ils évoquaient par exemple le fait qu'ils synchronisent les 1000 dernières photos entre tous les appareils automatiquement et que ça se faisait aussi sur PC. Donc il y aura au moins une partie de iCloud qui sera effective sur PC, sans doute en passant avec iTunes comme toujours. iCloud, on ne sait pas quand ça sera disponible, si je ne m'abuse. iOS 5, ça sera à l'automne. macOS sera disponible à 29 $ sur l'App Store exclusivement, téléchargé sur l'App Store directement. iCloud on me dit merci Minaret, merci Amiens, que iCloud sera disponible en même temps qu'iOS 5, donc à l'automne 2012. Et alors je sais plus, on me dit iTunes iCloud ce soir. iTunes Cloud c'est encore différent, j'y viens. iCloud et iOS en même temps, gratuit. macOS $29 par l'App Store uniquement sur Mac. Par contre, il y a un autre élément qui est très important et on va finir avec ça. iTunes Cloud. Alors c'est ce fameux service, on ne sait pas trop si c'est streaming ou pas. En fait, non. C'est pas streaming. Décidément, je me répartis dans tous les sens. iCloud permet aussi de faire un truc qui était plus ou moins disponible avant, c'est-à-dire télécharger des apps qu'on avait déjà achetées auparavant. Donc on peut toutes les retélécharger automatiquement. On a une liste de toutes les apps qu'on a déjà achetées et on peut les installer sur toutes les machines qu'on a facilement et sans restriction. Donc toutes les machines qui ont qui sont associées à votre login Apple. Et donc iTunes Cloud, c'est quoi? C'est un service qui coûte $25 par an et qui vous permet de scanner votre bibliothèque de musique et de la rendre disponible sur iTunes Cloud et de retélécharger tous les morceaux que vous avez qui vous appartiennent sur votre disque dur, quelle que soit la machine. Donc en fait, c'est une sorte de catalogue de tout ce que vous avez déjà acheté, et vous pouvez les retélécharger, enfin pas gratuitement puisque ça coûte $25, mais vous pouvez les retélécharger à loisir en meilleure qualité peut-être que ce que vous aviez, puisque c'est 256 kilobits par seconde en AAC, ce qui est une très bonne qualité. Alors ça, c'est l'aspect qu'on attendait. L'autre aspect qu'on n'attendait pas vraiment et qui nous a tous laissé un petit peu perplexes, c'est le fait que... alors, on me dit, Dead Art me dit, les $25, c'est uniquement pour les musiques qu'on n'a pas téléchargées depuis iTunes. Si c'est acheté depuis iTunes, c'est gratos. Merci, Dead Art. Encore une fois, c'est un petit peu confus. Ça a duré 2h30, je suis un petit peu dans les vapes, donc merci de m'aider. Il y a ce système qui s'appelle iTunes Match. Et iTunes Match, c'est un système qui va scanner, là encore, votre bibliothèque, qui va prendre tous les fichiers MP3 ou autres, y compris ceux que vous n'avez pas achetés sur iTunes, et qui va vous permettre de les retélécharger sur en AAC 256K, tout ça, qualité meilleure que CD, comme on nous le dit dans la chatroom, et de les acquérir, en fait, sans avoir à les payer en quelque sorte. Alors, Steve Jobs, pendant la keynote, disait, évidemment, c'est pour les morceaux que vous avez ripés depuis vos CD, mais ce que tout le monde a pensé immédiatement, c'est, si jamais j'ai téléchargé ces morceaux illégalement et que je les ai sur mon disque dur, ça veut dire que je peux, en quelque sorte, acheter la validité de ces morceaux pour $25 par an et me montrer patte blanche au studio de musique. Et donc, en quelque sorte, les acquérir légalement. C'est un truc un petit peu étrange. Il y aura sans doute des limitations, mais alors, bon, sans en discuter plus. Jeff, première réaction sur cette opération de blanchiment de MP3, comme on dit dans la chatroom.
Bah, ça fait un reset, quoi. C'est un peu comme tu déclares à l'IRS combien au fisc américain combien tu leur dois, et puis voilà, quoi. Donc, ouais. C'est un moyen de dire, bah, en fait, peut-être que je devrais payer pour ces trucs-là, voilà. Et puis voilà, j'ai payé.
Mais c'est assez intelligent, finalement, parce que ça permet aux majors de dire, qui n'avaient pas d'argent des pirates, de récupérer un peu d'argent de ces gens-là qui sinon ne leur auraient jamais donné. Et bien sûr, il y a plein de gens qui vont se dire, mais j'en ai rien à faire de service. Moi, je suis j'ai mes morceaux piratés ou pas, hein, ou même ripés. Moi, j'ai plein de CD ici que j'ai ripés. J'ai pas besoin forcément de payer 25€ pour avoir les mêmes disponibles dans le cloud et que je peux retélécharger n'importe où. Oui, ok, pourquoi pas. Mais en même temps, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui autrement n'auraient pas du tout utiliser ce système ou payer d'argent aux majors qui là vont se dire bon bah là je vais utiliser le service pour pouvoir les télécharger n'importe où, etc.
Oui, bon. je suis pas super convaincu parce qu'en fait c'est si t'es vraiment un fan d'une certaine musique, soit tu as 1000 CD dans ta bécane et tu l'as mis sur tes différents devices, soit bah tu l'as downloadé d'iTunes et ça fait une éternité que j'ai pas acheté un CD, je download tout depuis iTunes, ouais. Et donc bah, avec les différentes copies, les synchronisations, etc., tu les as sur les différentes machines, tu les as sur les différents devices, ouais. Tu les as sur ton Sonos, et puis voilà, quoi.
Bah, y a plein de gens qui vont se demander pourquoi est-ce que j'aurais besoin de payer, quoi, pour ce service-là. Je suis pas certain que ça soit... Enfin, oui, pourquoi pas, parce qu'on peut imaginer, si on est un petit peu pervers, qu'on va télécharger 12 gigas de musique, les faire mettre à jour par ce système, et puis ils sont téléchargés en sans DRM, sans restriction, hein, d'après ce qu'il disait dans la keynote. Donc on peut faire 12 gigas, je fais le truc, je paye un an, je récupère tous les morceaux en meilleure qualité, enfin, même pas, parce que si on les a déjà, je sais pas, ça me laisse un petit peu perplexe cette histoire. Comme on dit encore dans la chatroom, c'est le fait de les déclarer, de déclarer ces morceaux et de s'affranchir du truc. Mais pourquoi est-ce que les gens qui veulent faire les choses illégalement le feraient? Pour pouvoir le télécharger ailleurs? Parce qu'il n'y a pas de streaming avec ce système. Tout le monde pensait au streaming. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de streaming avec ce système. Donc quel est l'intérêt? Tu les as pas quelque part dans le cloud et tu peux les écouter à loisir. Il faut les retélécharger à chaque fois. Donc, un petit peu étonnant. Dernière chose à signaler, iOS va intégrer un... iNewsstand, je crois qu'ils l'ont appelé, qui est une sorte de bookstore, mais pour les magazines, ce qui est assez intéressant, d'autant plus qu'il y avait le point qui faisait partie de l'aventure, et qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps que ça, que les groupes de presse français voulaient se regrouper pour essayer d'éviter que Apple n'ait trop de force. Et là, leur newsstand, leur kiosque virtuel, Le Point et sans doute d'autres sont en train de se rallier à leur cause. C'est, à vrai dire, pour la presse sur iPad, c'est une énorme évolution, quoi. On pense tout de suite à l'iPad, bien sûr. Bon. Je suis désolé, hein, c'est un petit peu éparpillé, mais vraiment, ça fait une heure que c'est passé. Si jamais il y a d'autres trucs qui me reviennent à l'esprit, j'en reparlerai, mais en gros, c'est ces quelques éléments qu'il faut retenir, et je suis sûr qu'il faudra plusieurs jours pour comprendre les tenants et les aboutissants de tous ces éléments, et surtout, pour comprendre les restrictions éventuelles qui n'ont pas été évoquées tout de suite et qui seront qui deviendront beaucoup plus claires plus tard. Et iTunes Cloud sera disponible normalement dans les jours à venir, donc pas en automne comme c'est le cas pour les autres mises à jour.
Je te dis, le truc qui résonne pour moi, c'est un, le fait que Apple a développé en natif beaucoup de petites fonctionnalités qui avaient été en gros mises en place par des petites sociétés dans le cadre de petites applis qui étaient assez utilitaires, etc. Donc ça, c'est en gros, on fait un nettoyage et on remet tout à niveau. Et puis, c'est cette intégration au niveau core de Twitter sans Facebook. Ce qui me semble vraiment très notable.
Ouais. Dernière chose, je ne sais pas si je l'ai dit, iCloud aura une API, donc sera accessible à tous les développeurs qui pourront stocker leurs fichiers sur iCloud. Donc c'est un moyen de se débarrasser, selon Apple, du système de fichiers, du file system. À mon avis, quand tu as 10 fichiers, ça va. Quand on a 200, leur système risque de partir un petit peu en sucette, parce que si tu n'as pas de dossier pour classer tes fichiers, je ne suis pas sûr. Mais bon.
Tout dépend comment c'est implémenté. Si c'est sous la forme, regarde Dropbox. Dropbox a en fait eu le génie de faire quelque chose de très très simple où tu as un folder qui est quelque part partagé de façon magique, comme on en parlait. Après, tu peux faire des sous folders. Ça marche relativement bien.
Oui, mais c'est un système de fichiers classique sur iPhone. Parce qu'aujourd'hui, si tous tes fichiers, imagine tous tes documents de traitement de texte, tous des documents Pages sont sauvegardés dans le cloud, si t'en as 200, il faut bien les classer d'une manière ou d'une autre.
Oui.
Et peut-être que sur iPad, peut-être que sur macOS, ça sera possible, évidemment, parce qu'on a des fichiers, des dossiers, mais sur iPad, si t'as accès à tes 200 documents qui sont une liste l'un après l'autre, tu vois, c'est pas évident. Alors, à moins peut-être qu'avec la recherche, c'est plus simple que de classer...
Ouais, ça peut être une question de tu les regardes par sujet, qu'est-ce qui est le plus récent, par type de fichier.
Oui, bon, la recherche peut-être.
Je sais pas, on verra.
Ok, donc à voir dans les jours et les semaines à venir. Et on va continuer avec plein d'infos sur notamment Windows 8, qui nous a fait un petit truc un petit peu inattendu. Mais avant ça, je voudrais vous parler de notre premier sponsor, qui est un sponsor qui me fait particulièrement chaud au cœur, c'est Comic-Con Paris. Vous connaissez Comic-Con Paris, qui est le festival des cultures imaginaires, qui entre dans sa troisième saison cette année. En fait, c'est un festival qui a lieu du 30 juin au 3 juillet, au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte, et qui qui vous permet de retrouver toutes vos passions, que ce soit les jeux vidéo, les spectacles, les mangas, évidemment, parce que c'est lié à la Japan Expo, mais aussi les comics, les avant-premières de séries télé, du cinéma, des invités prestigieux. Et quand je dis des invités prestigieux, je pense pas tout à fait à No Watch, mais quand même, parce qu'on aura un stand sur sur Comic-Con Paris. On aura un petit stand sur lequel vous pourrez venir nous voir et sur lequel on va faire aussi des animations et des podcasts en live, notamment, petit coup de pub, un upload en live à 11h le samedi 2 juillet. Vous pourrez venir nous voir là-bas. Mais il y a évidemment énormément de choses à voir à Comic-Con Paris. Et vous pouvez avoir plus d'informations et acheter vos billets d'entrée en passant, comme toujours, par le site nowatch.net. Vous cliquez sur la bannière Comic-Con et vous pouvez avoir toutes les informations pour acquérir vos billets. Si vous êtes sur Paris ou si vous êtes un petit peu fan de geekery et de comics, franchement, c'est le salon à ne pas manquer et je vous encourage très vivement à aller voir les informations qui sont disponibles sur le site en passant par chez nous. Comme ça, ça nous fait un petit peu plaisir. Et petite note supplémentaire, il y a un t-shirt spécial, enfin un pack spécial qui s'appelle le Silver Pack, qui est disponible sur notre site aussi et que vous pouvez commander dès aujourd'hui et que vous pourrez retirer sur notre stand à Comic-Con Paris. Et ça nous aide énormément parce que ça nous file, enfin c'est une édition spéciale qu'on a tirée spécialement pour cette occasion et qui nous aide à financer en fait notre petit voyage à Comic-Con. Donc on vous encourage à aller faire ça si vous voulez nous soutenir. On remercie Comic-Con Paris, on vous remercie aussi de nous aider de cette manière. Alors donc, on enchaîne avec Windows 8. J'imagine que ça par contre tu l'as pas raté, tout le monde en a parlé.
Je l'ai pas raté, tout le monde en a parlé. J'ai juste regardé un petit peu les démos d'interface utilisateur ouais. Qui étaient donc à la conférence où je n'étais pas pour une fois. Et donc ouais, ça a l'air mignon, ça rappelle Windows 7 sur le téléphone qui marche vachement bien comme on sait. Ah. Donc je sais pas, on va voir.
Ça, enfin, attends, je vais juste préciser pour que les fanboys ne m'égorgent pas. Il marche pas très bien commercialement, mais tout le monde le trouve très bien pensé et très bien conçu quand même. Windows Phone 7, j'entends.
Ouais. Non mais ouais. C'est super bien d'avoir quelque chose qui est vachement bien conçu mais que personne n'utilise.
D'accord, je laisse passer la chose, vas-y.
J'applaudis le fait que Windows, Microsoft essaie vraiment de changer le paradigme de l'interface utilisateur. Et c'est vrai qu'il y a des aspects qui sont vraiment très très sympas, blague mise à part. Le problème, c'est que si tu veux, ils ont été trop loin, en tout cas sur le téléphone. Donc on va voir ce que ça donne sur les ordinateurs. Ils ont été trop loin en fait dans le changement d'interface, qui fait que c'est assez bizarre quand tu utilises en fait ton téléphone Windows 7, parce qu'ils m'ont collé un dans les pattes pour que j'arrête de dire que c'était pas bien. Et j'ai essayé d'utiliser pendant 2 jours et en fait je suis revenu à mon iPhone parce que c'était vraiment trop disruptif, trop différent. Alors que tu vois Android, bon, t'arrives à t'en sortir, il y a pas de problème quoi. Après c'est une question de choix. Windows 7, c'est pas encore là.
Et donc Windows 8, qui est le vrai Windows 8 qui va arriver, on ne sait pas quand, mais on entend parler de 2012, il intègre en fait de base une interface qui est, comme tu le disais, très semblable à celle de Windows Phone 7, donc une interface qui est pensée pour le touch dès le départ. Donc quand vous arrivez sur votre écran d'accueil Windows 8, vous avez ce qu'ils appellent les tiles, qui sont pas des icônes mais qui sont des grandes icônes, enfin des grandes zones unicolores avec du texte à l'intérieur et des images sur lesquelles vous cliquez, ça vous lance le programme, mais qui peuvent aussi afficher des informations comme une widget. Et ces tiles, vous en avez, je sais pas, peut-être une dizaine par écran, mais c'est vraiment des trucs qui sont tout droit sortis de Windows Phone 7, donc pensés pour le touch. Et là où on se dit ça serait un système parfait pour les tablettes sous Windows, on est un petit peu plus perplexe quand on voit que c'est de base l'interface de Windows 8 sur ordinateur de bureau. Parce que, enfin, je sais pas, moi, ça me paraît... Autant quand je l'ai vu au départ, je me suis dit, mais c'est vachement sympa pour les tablettes, voilà, ils ont trouvé leur système pour les tablettes. Autant je me dis, ce système prévu pour le touch, moi je vais pas me mettre à toucher mon écran parce que mon bras se fatigue très vite. Je vais pas me mettre à toucher mon écran en permanence. Et c'est un petit peu un truc qui a le cul entre deux chaises, quoi. Donc.
Ouais, c'est le problème de l'interface touch qui est foncièrement absolument génial pour les démos, mais dans la pratique, les applications sont quand même vachement limitées. Mmh. Ouais, moi, j'ai des copains qui ont développé, en fait, tu sais, ces interfaces où tu peux zoomer, changer la rotation, etc., directement en touchant façon Minority Report. Et donc, ils ont construit l'interface de Minority Report. En fait, c'est les mecs oblongues qui avaient développé le soft qui était utilisé dans le cadre du film et qu'ils ont en fait développé pour de vrai. Ouais. Et c'est incroyable dans le cadre des démos, mais quand tu essaies en fait d'utiliser ça dans la vraie vie, c'est assez limité, quoi.
Ouais, je comprends.
Et c'est surtout, ça qui... c'est, Et surtout, c'est pas confortable. C'est ça ce que tu veux dire.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est pas agréable parce que tu te fatigues très vite, quoi, avec le doigt sur le. Et en plus, au-delà de ça, imaginons que les développeurs construisent leurs applications, développent leurs applications avec en tête cette interface prévue pour le touch. Ensuite, est-ce que ça sera vraiment agréable à utiliser à la souris et au clavier? Je suis pas convaincu, quoi. Donc, je l'enterre pas du tout, hein, Windows 8. Au contraire, il y a énormément de choses intéressantes, et notamment le fait que le système sera moins gourmand en ressources que Windows 7, qui lui-même était moins gourmand que Windows Vista. Donc ça, c'est très bien. Mais on voit cette interface, et entre parenthèses, pour être très clair, l'interface classique de Windows 7, de Windows 7, existe déjà. Enfin, existe sous l'interface touch de Windows 8, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une interface à l'autre. Il y a les deux, il y a vraiment les deux. Si vous naviguez entre les différents écrans, eh ben vous retombez sur vos fenêtres, votre barre des tâches, votre menu démarrer, tout ça. Donc, enfin, je sais pas. J'ai l'impression que peut-être, hein, il faudra attendre de l'avoir entre les mains. Là, c'est 3 minutes de démo, mais. Est-ce que c'est pas Steve Ballmer qui a absolument voulu avoir une version de Windows utilisée partout et donc qui a mis deux OS différents percutés dans un OS et que ça soit finalement un truc, une sorte de chimère étrange qui ne soit pas vraiment nécessaire et qui complique les choses plus qu'autre chose? Je me pose la question.
Ouais, c'est... Faire en sorte que ce soit un bon amalgame entre les deux types d'interfaces, ça va être compliqué. Si tu regardes en fait l'application eBay sur l'iPad, c'est en fait très choquant de en fait c'est super bien, c'est-à-dire que l'interface iPad d'eBay est tellement meilleure que l'interface web d'eBay, mais ils ont complètement repensé l'accès, complètement repensé la navigation, complètement repensé l'expérience, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et je pense que si tu essayais d'appliquer, en fait, je me suis même pas posé la question, mais si tu essayais d'appliquer cette interface matrice sur ton browser, sur ton PC, je sais pas ce que ça donnerait.
Ouais, c'est sûr. Et c'est vraiment une question de type d'interface, de type de périphérique d'entrée, quoi. Alors Apple pousse à fond le Magic Trackpad pour permettre d'utiliser facilement les aspects limités touch de macOS Lion. Mais là, je doute que Windows débarque avec un trackpad à la base, ou enfin, et même ça serait pas complètement adapté. Donc bon, là aussi il faut voir. C'est un tout petit peu inquiétant. Mais c'est intéressant quand même, donc j'ai envie de voir de quoi il s'agit, et puis c'était quand même très bien foutu pour l'aspect tablette, donc on verra.
Et tu vois, si tu utilises en fait un mousepad, donc un device qui réplique ton trackpad sur ton ordinateur, en fait ça commence à avoir beaucoup de sens, parce que tu peux avoir le côté tactile plus facilement, mais c'est pas encore tout à fait l'expérience que tu as. Enfin, c'est le plus proche que tu puisses aller en fait de l'aspect touchpad sur un ordinateur, et c'est assez sympa. Moi, j'aime bien.
Bon, à voir quand ça sortira dans quelques mois. Je pense qu'il commence à être assez près, hein, Windows 8. Donc, on aura sans doute plus de nouvelles assez vite. Autre grosse information, c'est la sortie de Google NFC, enfin Google Wallet, Google Portefeuille, qui est un système de paiement sans fil, ces fameux NFC, Near Field Communication, qui vous permettent de comme un Navigo, comme un Pass Navigo pour les Parisiens, de payer sans contact. Donc vous sortez votre téléphone, vous le passez sur la borne et ça paye. Alors c'est un truc dont on parle depuis très longtemps comme quelque chose qui devrait arriver bientôt, qui devrait changer les modes de consommation dans le commerce. On exagère un petit peu, mais c'est une sorte d'arlésienne dont on nous parle depuis des mois et des années. Et donc, Google le lance, Google se lance en premier, c'est très intéressant, ils sont associés à Mastercard, si je ne m'abuse. Le truc, c'est que c'est disponible uniquement pour le moment chez les gens qui ont un appareil qui fait du NFC, bien sûr, qui est sur le réseau Verizon aux États-Unis et qui sont dans 3 ou 4 des villes principales où ils testent le truc. Donc c'est vraiment un bêta test. Ils l'ont annoncé en grande pompe, ce qui est normal, mais c'est pas un vrai lancement, on a l'impression. C'est vraiment un lancement un petit peu timide pour tester la chose et pour voir s'il y a des avantages ou des inconvénients, des choses à corriger en cours de route.
Et puis attends, c'est un système de, enfin, je veux dire, le NFC c'est encore suffisamment nouveau pour que les hackers se jettent dessus pour essayer de voir comment ils vont pouvoir accéder aux informations du portefeuille électronique. Donc le fait qu'ils prennent un peu leur temps pour voir un peu comment ça se goupille, comment ça se déploie et quel est le niveau de sécurité éventuellement qu'il faudrait rajouter, ça me choque pas du tout.
C'est sûr, c'est sûr. Effectivement, il faut prendre les choses lentement. On nous dit dans la chatroom d'ailleurs que c'est déjà disponible à Nice. Amiens06 nous dit « NFC est déjà dispo à Nice, mais j'ai pas de mobile NFC ». Ok, super. Absinthe00 nous dit « Dispo, NFC dispo dans pas mal de villes. Le Crédit Agricole l'a testé avec Nokia ». Alors effectivement, peut-être que l'annonce de Google n'est pas une première mondiale, c'est certain. D'ailleurs, au Japon, ils payent tous avec leur téléphone mobile. Mais... C'est la première fois qu'on l'a de notre côté, enfin dans l'Ouest du monde. Et moi, je suis enthousiaste à cette idée, mais j'attends qu'on propose une solution un petit peu plus complète. Je veux pas. Enfin, j'ai l'impression d'être le mec déprimant aujourd'hui. Ouais, la keynote d'Apple c'était sympa, mais bon. Windows 8 c'est marrant, mais bon. Le NFC ok super, mais bon. J'ai l'impression d'être le mec jamais content, quoi.
Donc, t'attends qu'on arrive au CSA. Putain, on va se les faire. Ouais. Mon petit Patrick, tout va bien. Petit massage. Non. Objectivement, aujourd'hui, tu as à New York, dans les taxis, la possibilité de taper ta carte de crédit plutôt que de faire un swipe. Je pense que la volonté, in fine, c'est de dire, bah, j'utilise en fait mon téléphone comme moyen unique de paiement, donc j'ai même plus besoin de me trimballer avec mes cartes de crédit, avec mon portefeuille, etc. Ce qui fait que faut trouver une solution pour que tu perdes pas ton téléphone, parce que là, ça va commencer à craindre.
Ça, c'est sûr.
Et comment ? Moi, c'est ça la question. C'est OK. Quelqu'un me tient
toi,
mon téléphone.
Toi, tu penses à la sécurité comme... tout de suite, quoi.
Moi, je pense, oui, je suis maniaque auprès de. J'ai deux enfants qui, un qui a un téléphone portable, l'autre qui réclame son téléphone portable. Ouais. Et donc, le jour où tu as de l'argent qui est directement accessible au travers de ce device, ça va commencer à être drôle. Et donc, la question, c'est comment je m'assure que si jamais le téléphone a été volé, l'aspect NFC soit complètement déconnecté, quoi. Tu vois.
Ouais. C'est vrai.
Donc c'est il y a pas mal de soucis et je préfère entendre que Google
teste.
Il va petit à petit pour essayer de comprendre ce que ça veut dire.
Maurice Mendy nous dit dans la chatroom, Wallet c'est pas le NFC, c'est les services. Oui, bien sûr, on sait que le NFC c'est même pas les services, c'est enfin Wallet c'est les services. Effectivement, le NFC c'est guère que le protocole de communication, c'est l'aspect technique. Effectivement, mais bon, communément on parle des choses comme ça. Bon, donc le NFC, effectivement, c'est intéressant, mais il faudra attendre là aussi de voir ce que ça donne à plus grande échelle. Et on revient un petit peu en France pour parler d'un autre truc assez hallucinant et assez déprimant. C'est cette histoire de CSA qui interdit aux chaînes de dire Facebook à l'antenne. Bon, c'est pas
exactement... Facebook, Twitter, je vous emmerde.
Ça, c'est l'avantage d'être dans un podcast. En exactement. Fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a une loi, je crois, qui date de 92, qui interdit la publicité déguisée sur les chaînes de télévision et de radio. Ce qui, en soi, est une bonne idée, tu vois. C'est effectivement quelque chose d'intelligent d'interdire la publicité déloyale. Ok, jusque-là, pas de problème. Sauf que le CSA a regardé ce qui se passait sur les chaînes de télé et de radio et qu'ils se sont dit, eh ben, quand ils disent « Venez nous suivre sur notre page Facebook ou suivez notre compte Twitter », c'est de la publicité déguisée pour Facebook et Twitter. Donc, quelle est la solution ? C'est d'interdire à toutes les chaînes de télé et de radio françaises de dire à leur public « Venez nous rejoindre sur notre page Facebook ou suivez notre compte Twitter ». Donc en gros, ils n'ont plus le droit de citer Facebook et Twitter que dans le contexte d'une news, enfin d'une information qui a lieu d'être sur leur antenne. Et là, le monde entier a fait... Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est le facepalm.
Et c'est le facepalm et les Français sont mais ridicules. Ça, entre, entre DSK et ça, je peux te dire que dans en espace de 15 jours, là, les Français, c'est la risée et c'est les Belges, hein, je veux dire. Pas ouais, contre les Belges,
on,
salut les Belges.
On, oui, on aime bien les Belges, hein. D'ailleurs, il y en a dans la chatroom.
Mais je veux dire, en termes de jokes, même moi, j'ai eu droit. tu peux encore, tu peux parler de Twitter et de Facebook. Et en plus, ce que je comprends, parce que j'ai lu en fait la justification, et ils disent non, on peut pas faire de pub. Il y a MySpace, il y a des trucs français que je, dont j'avais jamais entendu parler. Et ils disent retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Ok. Où?
Mais
ben,
oui,
sur Facebook, c'est, quoi.
C'est complètement ridicule. C'est-à-dire que là, c'est une preuve complètement évidente de la déconnexion entre le CSA et la réalité, quoi. C'est, enfin, je sais pas, mais comment est-ce qu'on peut imaginer deux secondes que cette décision est justifiée? C'est invraisemblable, invraisemblable. C'est ils ne, enfin, c'est des gens qui impriment, qui font imprimer leur email par leur secrétaire, quoi.
Ils n'utilisent pas email, mail. C'est pas email, c'est mail. Que dis-tu, Patrick? Non, ils n'utilisent pas, ils comprennent pas, ils sont complètement. Mais en plus, c'est le détriment, c'est au détriment des, enfin, des médias français. Parce que aujourd'hui, utiliser Facebook et Twitter comme moyen de communication, comme moyen de déploiement de l'information, c'est ce que tout le monde fait, je veux dire.
Mais évidemment, oui.
Tu vas, moi, l'autre jour, j'ai volé sur United Airlines. Tu as donc un mouche, enfin, la petite serviette qui te donne avec tes trois cacahuètes. Et en gros, d'un côté, c'est follow us on Twitter, et de l'autre côté, c'est connect with us on Facebook. Et c'est à la base comment tu communiques dans en 2011, quoi.
Ouais, non, mais
et le fait de, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est de la connerie en barre. Et je voulais en fait attaquer NKM là-dessus, puis j'oubliais, mais ça vaudrait le coup en fait de lui poser la question, quoi, parce que c'est
n'importe
quoi.
Mais je suis sûr que NKM, elle a dû faire le même facepalm que nous, quoi, parce que elle connaît le réseau, elle a une légitimité dans ce domaine. Et je suis certain que, enfin, évidemment, elle peut pas s'exprimer parce qu'elle fait partie du gouvernement, encore que le CSA est indépendant. Mais c'est le genre de truc que qui que ce soit qui comprend un tant soit peu le monde dans lequel on vit. Ne peut pas imaginer, quoi. Not Johan dit dans la chatroom, en même temps, la télé, on ne la regarde plus. Donc, oui, d'accord, mais c'est pas une raison. Et Itoki dit, à vous entendre, on peut plus se passer des réseaux sociaux, ça fait peur. C'est pas question de pouvoir se passer ou pas des réseaux sociaux. C'est comme si tu disais, vous pouvez pas donner votre numéro de téléphone parce que ça fait de la pub à Orange. Bref, c'est invraisemblable. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est pas la peine de développer.
Ouais, non, mais je pense, en plus, faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que Twitter, enfin, c'est vraiment pas, enfin, la pub de Twitter, ça a été utilisé maintes et maintes fois dans des contextes, d'aide aux urgences, dans des situations extrêmement difficiles, et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas faire la pub d'un média absolument fondamental d'aujourd'hui, et donc de dire on s'en abstrait, c'est n'importe quoi.
Déprimant, déprimant. Et d'ailleurs, il y a des gens qui comprennent un petit peu mieux l'internet que nous. Les Pays-Bas ont adopté la neutralité du net comme une loi, un élément de leur, une loi, quoi. Hein, le net doit être neutre, les FAI doivent la respecter. Et l'ONU a déclaré, c'est une assemblée consultative, donc c'est un rapport qui n'est pas, qui ne force personne à faire quoi que ce soit, mais il n'empêche. Ils ont déclaré que priver les citoyens d'Internet allait à l'encontre des droits de l'homme. Donc, ça veut dire que la loi Hadopi va, selon l'ONU, à l'encontre des droits de l'homme. Le fait de priver quelqu'un d'Internet, c'est à l'encontre des droits de l'homme qui est... Enfin, je pense que c'est une idée qui commence à être un petit peu évidente dans nos cercles, mais les gouvernements commencent à s'en apercevoir et... C'est une ça devrait, et je pense que ça va être le cas, de plus en plus de gens commencent à se rallier à ce type d'idée, et je pense que les gouvernements qui n'y sont pas encore ralliés vont finir par comprendre, parce que au bout d'un moment, quand tout le monde te le dit, tu finis par te rendre à l'évidence, je crois. Bon, bravo l'ONU, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Oui,
mais c'est vrai, quoi.
Comme quoi l'ONU comprend. Alors pourquoi est-ce que le CSA comprend pas?
J'espère
même si d'un côté ils disent pas faut arrêter le net, c'est interdire aux aux médias français d'utiliser ça. Enfin, bref, peu importe. Mais ouais, en tout cas, non, oui, c'est un droit fondamental d'accéder à Internet et c'est un droit fondamental de communication, d'accès à la connaissance, d'accès aux libertés. Enfin, c'est un droit à liberté, quoi.
Oui, bon, bref, on pourrait faire deux heures là-dessus et on ferait que s'énerver l'un l'autre et se monter le bourrichon.
Mais ils sont cons, bordel. J'arrive pas à y croire. Même si quand j'en ai entendu parler, j'étais plié de rire.
Ah, mais c'est déprimant.
Ça pleurait, quoi. Ça pleurait.
Twitter, avant de passer à nos news et rumeurs un petit peu plus rapides, Twitter a jeté encore un pavé dans la mare de ses développeurs en annonçant que le service d'images et de vidéos, enfin de photos et de vidéos, allait être intégré. Enfin, ils ont développé un service propre à Twitter d'images et de vidéos. Donc, au lieu de passer par TweetPic, WhyFrog, tous ces services-là pour héberger vos images et vos vidéos que vous postez sur Twitter, là, vous pouvez directement envoyer des photos par le service Twitter. Ils ont fait un partenariat avec qui déjà? Cloud quelque chose, Bucket, Photo Bucket, je sais plus.
Photo Bucket. Donc Photo Bucket va s'occuper de tout ce qui est hosting, backend,
l'infrastructure derrière,
les photos, donc l'infrastructure. Mais c'est Twitter en fait qui va offrir l'intégration directement dans ses clients des fonctionnalités, donc d'affichage, etc. Donc c'est pas étonnant. Puisque on en a parlé dans plusieurs rendez-vous tech, Twitter a repris la main sur tout ce qui est client, fonctionnalité d'accès, etc. Donc le fait qu'ils disent on va aussi offrir notre propre tweet vide, tweet pic, tweet machin, etc. WhyFrog, c'est pas étonnant en tant que tel. Simplement, ils commencent vraiment à reprendre la grosse part. Enfin, c'est plus que une petite partie de l'écosystème. Là, ils commencent vraiment à reprendre la couche d'au-dessus qui était la valeur ajoutée, le média, etc. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont pas super contents effectivement à propos du sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pas racheté une boîte parmi les différents acteurs, ils l'ont développé par eux-mêmes, quoi.
Ouais, c'est vrai. Et j'ai entendu dire qu'ils avaient annoncé à WhyFrog et TweetPic qu'ils allaient faire cette chose il y a quelques mois pour pas les prendre par surprise comme ça avait été le cas auparavant avec d'autres.
Ils n'ont pas annoncé à TweetPic. TweetPic a dit qu'ils n'étaient pas au courant.
Ah, ok. Alors peut-être pas. Dans la chatroom, on me dit c'est normal vu que TweetPic revend les photos à une agence, encore Amiens, Aimen, je t'ai appelé Amiens plusieurs fois, c'est Aimen. Ils revendent pas exactement à une agence. Disons qu'ils s'autorisent le droit de éventuellement proposer les photos à une agence et de te faire partager les bénéfices. Aimen, merci. Et de te faire partager les bénéfices si jamais il y a un petit scandale, on va pas rentrer dans les détails. Et cette histoire de Twitter qui héberge les photos, ça a sans doute à voir aussi avec l'intégration à iOS. Et autre chose qui est intéressante, c'est que désormais quand on fait une recherche sur Twitter, on a aussi sur la barre à droite des photos et des vidéos qui s'affichent, ce qui peut donner quelque chose d'intéressant dans le contexte des événements retransmis sur Twitter en direct par la foule. Ça peut être un aspect intéressant d'avoir directement les photos exposées sur le site, quoi. Mais effectivement, comme tu le disais, il fallait s'y attendre. C'est pas si surprenant que ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient pas super contents de voir la chose arriver, mais au bout de trois fois, il fallait être un petit peu rêveur pour se dire que ça allait pas arriver, quoi. Écoutez, avant de conclure notre émission avec les news et les rumeurs, on va passer à... Je sors mon petit papier pour parler de notre sponsor Numéricable. Numéricable que vous connaissez désormais assez bien et dont je vais vous parler pour vous parler d'une nouvelle offre, l'offre mobile qui a été lancée il y a peu de temps. Et c'est une offre mobile illimitée à moins de 25 euros par mois. On en avait parlé à l'époque de leur petit buzz, la révolution du mobile. Et ben, il se trouve que c'est bien comme on le pensait, un forfait illimité à 29,90€ par mois. Mais bon, il y a quand même, c'est pas magique non plus. C'est si vous êtes abonné Numéricable, hors ADSL, ou si vous voulez le devenir, vous pourrez souscrire à ce forfait. Donc oui, c'est si vous êtes abonné Numéricable. Et si vous voulez Internet, eh ben, Numéricable est peut-être une option que vous devriez considérer, comme on vous le dit depuis un certain temps. Et d'autant plus maintenant que si vous êtes chez Numéricable, 25€ pour un forfait téléphone illimité, c'est quand même pas rien. D'autant plus qu'il inclut appel, SMS, Internet et appel vers fixe et mobile. Vous pouvez voir toutes les conditions sur le site de Numéricable. Et si vous voulez aller sur le site en passant par chez nous, ça nous fait d'autant plus plaisir que, comme ils savent que vous êtes passé par No Watch, eh ben, ça nous aide beaucoup auprès d'eux. Entre parenthèses, l'offre est disponible aussi pour les non-abonnés Numéricable ou pour les abonnés ADSL à 49,90€ cette fois. Donc vous passez par le site nowatch.net, vous cliquez sur la bannière Numéricable et vous avez toutes les informations et tous les détails sur cette offre. On vous encourage à le faire et on vous remercie et on les remercie aussi de leur aide. Alors, on va continuer avec les news et les rumeurs. Et c'est donc la partie de l'émission où on passe en revue un petit peu plus rapidement les petites news qui ont fait l'actualité pendant ces deux dernières semaines, mais qui ne valent pas forcément d'y passer 4 heures. Je commence avec Sony qui a encore été hacké, ce coup-ci par une injection SQL, qui est un truc assez rudimentaire. Mais c'est pas Sony au niveau des consoles, c'est Sony Pictures. Alors on peut vous dire, oui, Sony c'est énorme et donc Sony Pictures c'est pas Sony Entertainment et donc c'est pas la même boîte. Mais il n'empêche, Sony Pictures visiblement stockait eux aussi leur mot de passe en clair. On en a suffisamment parlé pendant les scandales des hacks de Sony les semaines précédentes. Et quand on a le nom Sony sur sa boîte et que tout ça est arrivé, enfin je sais pas, on vérifie que tout est en ordre, chez nous quoi. Donc c'est un petit peu un gros fail et là je ne nuancerai pas mes propos parce que ça enfin c'est pas vraiment excusable quoi. Tous les gens de chez Sony auraient dû revérifier la sécurité de tout leur réseau.
Oui, c'est n'importe quoi ce truc, c'est ça va de mal en pis. Déjà ils étaient on en avait parlé donc la dernière fois c'était ridicule. Là c'est les bras m'en tombent où va-t-on quoi.
Ouais. Ouais ouais non, on est d'accord, c'est
et c'est pas comme si Sony, c'est pas ta petite start-up qui a pas vraiment les moyens de se payer des consultants en sécurité, des experts, des machins. Je dirais, attends, faut pas déconner, là. C'est,
Oui. On est d'accord. Nokia au plus bas depuis 13 ans. À sa grande époque, Nokia valait presque 300 milliards de dollars. Aujourd'hui, ils en valent combien? 27? Quelque chose comme ça?
Ouais.
Un petit peu triste, non? Ouais, non, tu t'en fous. Ok. Bon. Sujet suivant.
Moi, je m'en rappelle, pour moi, Nokia, le top du top de Nokia, c'était, dans, The Matrix, quand tu avais les téléphones qui faisaient clic-clac.
Et là, ils étaient au top du top. Et ça te le sort, là. Ouais, ouais, c'est vrai.
Et c'était grandiose, quoi. Et puis après, ça a été la grande glissade. Et je m'en rappelle, il y a 2-3 ans, au web, et le responsable de Nokia, de l'App Store me disait regarde on a un App Store et c'était tellement mal branlé et c'était tellement planqué sur le site, c'était introuvable, ça marchait pas. J'ai dit vous êtes foutus, vous avez rien compris.
La preuve.
Et je me rappelle quelques mois plus tard ils nous filaient des téléphones et c'était tellement inutilisable par rapport aux iPhones à l'époque que tu disais regardez ça, tu disais mais j'en veux même pas de ton truc quoi.
Oui, c'est clair. Android bloquerait les téléphones routés, donc les téléphones jailbreakés Android seraient bloqués pour certaines choses, et notamment pour la consommation de médias. C'est un petit peu... Bon, peut-être que c'était un truc qu'ils étaient obligés de faire pour avoir les accords avec les médias, mais bon, c'est un petit peu l'ouverture éternelle d'Android qui en prend un petit coup. Eric Schmidt à la conférence D9, un truc à retenir ou pas ? Si, un petit truc, tiens. Il a parlé du gang des quatre, qui étaient les quatre grandes sociétés qui faisaient l'actualité et l'innovation dans les consumer electronics et dans la technologie. Il a dit que c'était Apple, Amazon, Google et Facebook. Et il n'a pas parlé de Microsoft. Et quand on lui a fait remarquer, il a dit « Bah oui, Microsoft, ils sont très bien dans certains trucs, mais ils font plus rêver, quoi. Ils ne drivent plus l'innovation, ils ne mènent plus l'innovation. »
Ah oui, bah tu vois les multiples aujourd'hui de Microsoft, c'est une machine à fric. Ils font énormément de cash, donc un milliard, un milliard de dollars de free cash flow, ça se fait en quelques semaines pour eux. Mais ça fait pas rêver, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu la position, tu vois. Te rappelles de Deck?
Deck?
Tu vois, c'est à une époque Deck, ça faisait plus rêver, quoi. C'était encore une machine
mais
à fric.
Mais je sais pas ce que c'est Deck.
Digital Equipment, donc un constructeur de machines, exactement, un constructeur de machines, de grosses babasses, de mini ordinateurs et gros ordinateurs. Donc c'était les Vax VMS, etc. qui faisait énormément d'argent, mais au bout d'un moment ils ont plus vraiment innové. Et petit à petit, ils ont disparu dans les méandres, tu vois.
Bon, de, Microsoft, on n'y est pas encore, hein, quand même.
Mais... On n'y est pas encore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tiens, je te pose une question. Si je te demandais quel est le CEO qui, pour toi, a amené le plus d'innovation dans le consumer tech, qu'est-ce que tu me cites?
Bah, Steve Jobs.
Eh ben, tu vois, pour moi, c'est Jeff Bezos.
J'allais dire Jeff Bezos en deuxième, ouais. Et je suis un grand fan d'Amazon en ce moment et je suis sûr que c'est les mecs en embuscade qui vont tout déchirer dans les mois à venir. Mais
parce que pour moi en fait, je suis un énorme fan de Steve Jobs évidemment, mais je trouve que Jeff Bezos a amené tellement d'innovations, que ce soit EC2, S3, donc ses services web, le Kindle, c'est tous les progrès qu'il a fait sur l'infrastructure d'agrégation, de livraison, l'Amazon Prime, same delivery, enfin, c'est incroyable ce que ce mec a amené en fait à notre industrie, mais c'est pas aussi shiny que Apple, donc c'est pour ça souvent on va mentionner Steve Jobs, mais quand tu y penses, Bezos, c'est assez incroyable, quoi.
Oui. Ah non, mais je suis complètement d'accord, hein, c'est clair. Autres informations. Les malwares Apple, la guerre est engagée. Les virus et les malwares, donc Apple fanboys, c'est fini. Vous êtes maintenant dans le camp de Windows. Bon, j'exagère un peu, hein, quand même. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces histoires dont on vous parlait la dernière fois qui se perpétuent. Apple réagit encore suffisamment vite pour le moment, mais combien de temps pourront-ils résister? Et puis, bon, dernière petite nouvelle. Ah oui. La Siri a coupé le net et ils ont fait un coup à la Moubarak, donc ils ont fait un petit peu le coup de l'Égypte. Est-ce que ça sent la fin pour la Siri? Peut-être. Et autre chose dont je voulais parler, non, on va pas faire ça. Bon, je crois qu'on a plus ou moins fini. Juste pour vous dire, il y a l'E3 en ce moment et plein d'annonces. Si vous aimez les jeux vidéo, suivez l'actualité. Je suis sûr qu'on en parlera dans certains podcasts No Watch. Mais c'est un truc qu'on n'a pas le temps de couvrir et de toute façon dont je ne pourrais pas parler ici en longueur. Mais c'est un truc aussi intéressant à signaler. L'E3, l'Electronic Entertainment Expo, a lieu en ce moment et les jours à venir à Los Angeles. Et il devrait y avoir plein de nouvelles sympas dans le domaine des jeux vidéo. Eh bien écoutez, je vais conclure avec le dernier sponsor qui est la boutique No Watch, où vous pouvez soutenir tout plein de podcasts que vous aimez. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site, il y a un lien vers la boutique, et il y a plus de 140 articles, t-shirts, goodies aux couleurs des émissions No Watch que vous aimez, qu'ils soient dans No Watch TV, No Watch FM ou The Lab. Vous avez des prix assez larges et différents, sachant que les t-shirts et les objets les plus chers nous aident plus, évidemment. Et il y a aussi un t-shirt dessiné par les auteurs de la BD Les Geeks pour la 100e de Geeking. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode 100 de Geeking. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un épisode très sympa dont je ne vais pas vous gâcher la surprise, mais qui fait un petit peu, on va dire, de voyage dans le temps. Et il y a un t-shirt assez cool en édition limitée qui est disponible jusqu'à la fin du mois, avec les frais de port offerts pour ces t-shirts et pour tous les autres jusqu'au 19 juin. Si vous entrez le code NWNET, NWNET, vous avez les frais de port offerts sur la boutique No Watch et sur l'édition limitée des t-shirts Geeking 100. Donc vous pouvez y aller avant la fin du mois parce que après ils ne seront plus disponibles. Et bien sûr, n'oubliez pas le fameux Silver Pack pour la Comic-Con ou pour Comic-Con Paris plutôt, qui ne sera lui non plus pas disponible très longtemps. et que vous pouvez commander sur le site. Lui, par contre, il n'est pas sur la boutique. Vous avez le lien directement accessible de toutes les pages du site. Donc, merci à la boutique, ou en tout cas, merci à vous d'aller y faire un tour. On passe donc le message de Guillaume, donc la Statosphère, qui nous parle cette fois-ci de Foursquare et de la montée météorique de Foursquare depuis les quelques années qu'il a été créé. Guillaume, c'est à toi.
Bonjour à tous. C'était il y a à peine 2 ans, 5 Américains fondaient le réseau social Foursquare. Le service allait connaître un succès fulgurant puisqu'en 2010, il enregistrait 3400% de croissance et déjà plus de 381 millions de check-in. Une infographie publiée en janvier 2011 dévoile les lieux les plus populaires sur Foursquare. Excepté 2 gares ferroviaires japonaises, 1 musée australien et 1 bar à vin thaïlandais, les top 3 de chaque catégorie sont peuplés de lieux américains, soulignant le succès du réseau aux États-Unis. Aujourd'hui, Foursquare est le leader des réseaux sociaux consacrés à la géolocalisation. Le réseau social montre d'ailleurs une véritable capacité à impliquer ses utilisateurs, comme en témoigne une autre infographie dévoilant l'usage de Foursquare. Ainsi, 86% des utilisateurs enregistrent au moins un check-in par jour. Par ailleurs, si 3/4 des utilisateurs considèrent les badges comme une information utile, les titres de maire et les conseils prodigués se révèlent plus secondaires. Enfin, le 22 octobre 2010 est une date symbolique pour Foursquare, puisque le seul check-in effectué dans l'espace était envoyé depuis la Station Spatiale Internationale. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
Donc voilà, Foursquare, merci Guillaume. Est-ce que tu es fan de Foursquare, toi ? Parce que moi, c'est le truc... Autant je suis Facebook, Twitter, machin, tout ça, autant franchement, Foursquare, je suis jamais rentré dans le trip, quoi.
Écoute, donc j'ai passé sur Foursquare en tant qu'investissement en juillet 2009 parce que j'ai mis beaucoup d'années...
Ça marche du feu de Dieu, hein, t'as eu du nez, parce que c'est hyper... Oh, tu peux peut-être pas en parler du coup si t'es investisseur.
J'ai passé. Je n'ai pas investi. Parce qu'en fait, j'aimais beaucoup Denis, donc le fondateur, mais j'avais du mal en fait avec la rétention, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que les utilisateurs reviennent sans arrêt sur Foursquare? Qu'est-ce qui va les amener en fait à l'utiliser tel qu'on le voit aujourd'hui avec Twitter et Facebook? Et je voyais pas ça. Donc clairement, je me suis planté parce que ils ont effectivement décollé en termes de valorisation, c'est-à-dire que le dernier tour qu'ils ont fait les a valorisés à 100 millions de dollars et il y a une rumeur comme quoi ils lèvent un tour à 500 millions. Ouf. Mais ils ont de toute façon un gros problème de churn, c'est-à-dire ils vont acquérir beaucoup d'utilisateurs, ils ont peut-être, je sais pas, 6 ou 7 ou 8 millions, je sais même pas, d'utilisateurs inscrits, mais en fait ils ont une toute petite communauté d'utilisateurs qui vont systématiquement faire un check-in sur Foursquare. Et c'est en gros le problème que je vais anticiper, c'est quelle mécanique va faire en sorte que les gens vont se dire il y a une valeur à ce que je fasse un check-in à chaque fois que je vais quelque part.
Ouais, il y a des histoires de deals, de...
Ouais, tu as les deals, tu as t'as l'aspect social, c'est je laisse une marque quelque part, j'y suis, etc. Ouais. T'as le côté maire d'un endroit donné, tu as les badges, etc. Tu as les deals, effectivement. Genre si t'es le maire d'un endroit, d'une pizza, d'une pizzeria, typiquement tu vas pouvoir manger une fois par semaine gratuitement. Mais ça c'est le côté folklore. Je pense que fondamentalement en termes de business, comment est-ce que ça devient une boîte qui fait 100, 200, 300 millions de dollars, je sais pas.
Et ouais, c'est ça, en fait, pas le business model sur le long terme.
Je voyais pas le business model sur le long terme. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, quand je regarde mon utilisation de Foursquare, c'est surtout quand je fais des photos avec Instagram et je laisse une trace géolocalisée, si tu veux, que je fais un check-in. C'est assez rare que je fasse du Foursquare, sauf quand j'arrive à l'aéroport ou genre quand j'arrive dans une ville, etc. Je fais ma petite marque, je fais mon petit pipi contre l'arbre, de manière à dire j'étais là. Et c'est pour ça que je l'utilise. Mais autrement, au jour le jour, j'en fais pas beaucoup.
Je comprends. Et je te comprends d'autant plus que moi, c'est pas mon truc non plus. Bon, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Avant de se quitter, je voudrais vous dire que dans 2 semaines, je ne serai pas là. Et comme je ne serai pas là, je serai aux États-Unis en voyage. Ça sera super sympa. Et je suis sûr que vous pourrez me suivre sur Twitter. Note Patrick sur Twitter, n'oubliez pas. Mais comme je ne serai pas là et que je ne veux pas vous abandonner, eh ben j'ai demandé à mes camarades de Upload de me rejoindre pour faire une émission spéciale. Et oui, oui, non, mais ne criez pas, ne pleurez pas dans la chatroom, on sera là quand même. En fait, je serai pas là, mais je serai là. Avec donc Cédric, Jérôme et Corben, avec lesquels on a fait une émission spéciale pour essayer de comprendre ce que sont les fanboys. Donc c'est une émission spéciale fanboy, où on a discuté, disséqué, on s'est engueulé un petit peu, et on a essayé d'analyser ce que c'est qu'un fanboy, ce qui fait que quelqu'un est un fanboy, ou pas un fanboy, ou juste un fan, ou un hater, ou tout ça. On a fait une émission d'une heure environ, on discute de tout ça toujours dans la bonne humeur, donc j'espère que vous l'apprécierez. En tout cas, on s'est bien marré en la faisant, et elle sera disponible dans 2 semaines, et après ça, bien sûr, je reviendrai dans 1 mois avec une émission classique où on aura beaucoup de choses à traiter, et ça sera bien sûr avec Jeff, et j'espère qu'on aura Yann à ce moment-là. Mais dans 2 semaines, c'est la spéciale Fanboy. Eh bien, écoutez, donc on arrive à la fin de l'émission. Jeff, où est-ce que les gens peuvent-ils te retrouver donc sur l'internet?
Sur les réseaux sociaux.
Twitter.com/Jeff,
J-E-F-F. Et autrement, sur mon site web, SoftTechVC, SoftTechVC.com.
Merci Jeff. Pour ma part, c'est donc NotePatrick sur Twitter ou Facebook.com/NotePatrick. Si vous voulez nous laisser un commentaire sur iTunes, vous pouvez aller donc sur la boutique iTunes. J'espère qu'elle sera encore là après les mises à jour de iTunes Cloud qui sont en train de se faire en ce moment. Mais vous cherchez le rendez-vous tech, vous arrivez sur les commentaires et vous pouvez faire comme, par exemple, Cénolo qui nous dit « Bon podcast, 5 étoiles, merci. Infotech et bonne humeur. Bon podcast permettant de se tenir informé de l'actu tech sans se prendre la tête, le tout dans la bonne humeur. Merci et vive la boutique. » Il a compris comment ça marche en fait. Merci Cénolo. En fait, faut nous dire des compliments pour... Non, bref. Ou JMRI qui nous dit une équipe de passionnés de la chose technologique qui décrypte l'actualité avec bonne humeur. Non, avec humeur, c'est différent. Sans verser dans la guerre de clochers. Je suis content que tu nous dises ça pour présenter un panorama complet sur un ton enjoué et jamais dogmatique. Bravo, continuez, je suis fan. Merci à toi et merci à tous les autres qui nous ont laissé des commentaires sur l'iTunes Store. Ils sont nombreux, j'espère que vous les rejoindrez. Donc je vous dis non pas à dans 2 semaines puisque l'épisode a été préenregistré, mais à dans 1 mois. Je vous laisserai donc avec moi virtuel, Jérôme, Cédric et Corben pour cet épisode spécial Fanboy. Je m'envolerai vers les États-Unis et je reviendrai un petit peu plus tard pour vous retrouver toujours avec un immense plaisir. Merci à tous, grosse bise, merci à la chatroom et à la prochaine. Ciao ciao.
Salut à tous. Et ça me fait très plaisir d'entendre que nous sommes des passionnés de la chose technologique.